Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Quatrième épisode.
Discours et images recouvrent les femmes comme un épais manteau. Nous l'avons vu hier. Comment les atteindre, les femmes? Comment percer le silence, les stéréotypes qui les enveloppent? Bien des sources existent cependant, autant de chemins que je voudrais emprunter. Du moins, je voudrais en signaler quelques-uns. Il y a des sources qui parlent d'elles, des sources qui émanent d'elles, où on peut entendre leur voix, que l'on peut trouver dans les bibliothèques, lieu de l'imprimé, des livres, des journaux, comme dans les archives publiques et privées. Et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui, des archives. Sur les archives, eh bien, on pourrait prendre l'exemple des archives policières et judiciaires, surtout à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, où l'ordre de la rue, comme celui de la campagne ou de la vie privée, devient une obsession. Les femmes troublent l'ordre et donc on les observe. Prenez par exemple Arlette Farge. Elle a travaillé dans les archives du Châtelet et publié des livres comme « Vivre dans la rue »,« La vie fragile », « Violence, pouvoir et solidarité » à Paris au XVIIIe. Eh bien, dans ces livres-là, dans ces archives du Châtelet et dans les livres qu'elle a écrits, il est beaucoup question des femmes. Les femmes sont à marier, elles sont séduites et abandonnées, elles volent de temps en temps quand elles n'ont plus à manger ou on les vole, elles ont des problèmes avec les enfants, elles ont des problèmes avec la police, elles crient. Et les commissaires de police consignent les événements de la rue dont elles sont les actrices ou parfois les témoins. Et on voit à quel point les femmes sont présentes dans la cité et dans les sources policières qui en parlent. Autre exemple, Jean Nicolas, c'est un historien de l'époque moderne. Il a écrit un livre qui s'appelle « La France rebelle ». Et dans ce livre, il étudie de manière pratiquement exhaustive les émeutes pour le pain, qu'on appelle les émeutes de subsistance, en France, de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution française. Et on s'aperçoit que dans ces émeutes, les femmes étaient très présentes. Pourquoi ? Parce que les ménagères étaient les gardiennes du juste prix du blé ou du pain. Et d'ailleurs, ça nous montre au passage que les femmes avaient un rôle public beaucoup plus important que on ne peut l'imaginer. Rôle qui d'ailleurs disparaîtra au XIXe siècle, dans la mesure où il y aura beaucoup moins d'émeutes de subsistance. Alors, dans ces archives-là, on trouve les femmes. Un autre exemple, Anne Marisson. Anne Marisson a publié un livre qui s'appelle « Chrysalide, femmes dans la vie privée, 19e, 20e siècle ». Eh bien, pour faire ce livre, elle a dépouillé 7000 dossiers judiciaires tirés des séries d'archives, dossiers d'assises ou dossiers correctionnels. Et elle a sélectionné tout ce qui était conflits privés, conflits familiaux. Et ben, là, on voit les femmes. On voit les femmes aux prises avec la violence conjugale, dont elles sont la plupart du temps victimes. Les femmes dans les crimes passionnels, victimes de crimes passionnels, beaucoup plus qu'auteurs d'ailleurs. Mais on les voit en même temps qui se rebellent par rapport à leurs maris ou à leurs amants. Et on voit qu'elles ne sont pas passives du tout. Hein. Il n'y a pas seulement une image résignée des femmes. Il y a une présence des femmes que l'on saisit à travers ces dossiers d'archives et ces dossiers judiciaires. Un troisième exemple d'archives, Annick Tillier. Annick Tillier a publié un livre qui s'appelle « Femmes infanticides en Bretagne ». Livre paru en 2002 aux presses universitaires de Rennes. Elle a dépouillé, elle, des centaines de dossiers d'assises relatifs au procès de femmes infanticides, c'est-à-dire de femmes qui ont tué leurs enfants. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais ce que l'on voit dans ces dossiers, ce sont des paysannes, la plupart du temps servantes de ferme, qui sont acculées à des naissances non désirées. Elles ont été la plupart du temps séduites et abandonnées et qui tuent ces nouveau-nés, en quelque sorte. Et à travers ces dossiers terrible. On plonge dans la condition sociale des campagnes bretonnes et on voit le dénuement de ces très jeunes femmes affrontées en quelque sorte à l'inégalité et au malheur. Alors dans tous ces dossiers judiciaires, on saisit des fragments de vie, des silhouettes de femmes, généralement des femmes du peuple. Et justement, là, on sort un peu de la bourgeoisie ou de l'aristocratie pour pénétrer dans le monde populaire et saisir la vie des femmes du peuple dans leur réalité la plus quotidienne. Ainsi, par l'archive, et là, il s'agit d'archives publiques, on peut dissiper le poids du silence. Simplement, il faut le chercher. Il faut se poser la question. Et on voit bien qu'en histoire, la question, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important.
Fillette de 20 ans est une fillette rose. Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause. Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser, à la rivière courante, elle s'en va le jeter. Personne ne l'avait vu. Que sa proche voisine, elle s'en va prévenir, monsieur de la justice, monsieur de la justice, vous ne savez donc pas ce qui se passe en ville quand on ne vous le dit pas. Monsieur de la justice s'en va trouver la belle. Il la trouve sur son lit, sa mère tout auprès d'elle. Bonjour, mademoiselle, comment vous portez-vous? Monsieur de la justice, je n'ai point affaire à vous.
Maintenant, à côté des archives publiques, il y a les archives privées. Les archives privées ont été accueillies quand il s'agit de personnes importantes aux archives nationales ou aux archives départementales, mais quand il s'agit de gens ordinaires, eh bien, je vous ai déjà dit qu'on n'y prêtait pas beaucoup attention. Et c'est là que l'initiative de Philippe le Jeune, et il y a eu des initiatives similaires dans d'autres pays, est intéressante. Philippe le Jeune a créé, il y a 10 ans à peu près, une association pour les archives autobiographiques qui s'appelle AAA. Et cette association siège à Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain. Aujourd'hui, ces archives renferment plus de 1500 documents. Et quels sont ces documents? Eh bien, ce sont des autobiographies, des journaux intimes ou des correspondances. Et presque, c'est toujours des archives de ce type-là. Et les auteurs de ces documents sont à peu près pour moitié des femmes. Donc là, on peut retrouver directement des écrits de femmes. Il y a une revue qui s'appelle La Faute à Rousseau, et dans cette revue, Philippe le Jeune et son équipe publient des extraits de ces textes, ou bien étudient des thèmes relatifs à ces archives privées. Ils tiennent un colloque annuel, ils ont des groupes de rencontres, des ateliers de lecture et d'écriture, et il y a là évidemment une source formidable pour la parole, l'écriture contemporaine des hommes et des femmes, puisque en l'occurrence ce sont les femmes que nous cherchons. Donc il y a présence des femmes dans ces archives. Mais si je reviens vers les siècles passés, il y en a moins, mais il y en a aussi. Il y a 3 grands types d'archives personnelles: autobiographie, correspondance, journaux intimes. Pour ces 3 grands types, je voudrais poser simplement la question des femmes. L'autobiographie, c'est le regard porté sur soi, généralement au soir de sa vie, et on cherche à l'écrire. Est-ce qu'il y en a venant de femmes? Oui, mais peu. Peu parce que les femmes n'ont généralement pas considéré, jusqu'à une date récente, que leur vie valait la peine d'être écrite. Il y a des exemples, des exceptions éclatantes. Par exemple, George Sand. George Sand écrit entre 1847 et 1854 « Histoire de ma vie ». C'est typiquement une autobiographie. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout une autobiographie intime. George Sand fait l'histoire de sa famille et sur 3 générations. Parce que, dit-elle, on ne peut se comprendre soi-même qu'à travers 3 générations. Et elle veut pas tellement faire son histoire intime que son histoire intellectuelle. Ceci dit, c'est un texte admirable et tout à fait passionnant. Il y en a d'autres, bien entendu, mais pas extraordinairement nombreux. Des correspondances. Là, les femmes sont beaucoup plus présentes. Pourquoi? Eh bien, parce que, à partir du moment où elles savent écrire, elles ont très souvent en charge la correspondance familiale. Évidemment, l'exemple le plus célèbre, le plus illustre, c'est Madame de Sévigné. Madame de Sévigné a une extraordinaire correspondance. Elle écrit à ses amis et elle écrit sur beaucoup à sa fille qu'elle adorait. Hein. Et il y a là une correspondance de la mère à la fille qui est un étonnant témoignage sur la vie des femmes, sur l'amour maternel, quelque chose de très important. Au XVIIIe et au XIXe siècle, eh bien, même les femmes moins connues que Madame de Sévigné sont un peu les secrétaires de la famille. Par exemple, quand un adolescent est pensionnaire, ou quand un jeune homme s'en va à l'armée, ou qu'un mari est absent pour ses affaires, la femme, son épouse, lui écrit. Et d'ailleurs, très souvent, les lettres circulent dans la famille, c'est un petit peu comme un bulletin d'information familiale. Et là, il y a évidemment une source très intéressante pour la vie de la famille et pour la vie des femmes. Alors évidemment, il y a des correspondances de femmes célèbres. On va retrouver George Sand. George Sand était une extraordinaire épistolière. Elle a probablement écrit, au cours de sa vie, 40 000 lettres. Et on a publié 26 volumes avec environ 18 000 lettres. Voilà, et ben c'est évidemment un témoignage de premier intérêt. Il y en a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres. Troisième type de document personnel, le journal intime. Il se trouve que le journal intime, à partir surtout du 18e et encore plus du 19e siècle, est une pratique adolescente. On conseille beaucoup aux adolescents d'écrire leur journal intime et plus spécialement encore féminine. Les confesseurs ou les directeurs de conscience ou les éducateurs, tout simplement les éducatrices, conseillaient aux jeunes filles d'écrire leur journal intime. Philippe le Jeune a écrit, publié un livre qui s'appelle « Le moi des demoiselles, enquête sur le journal de jeunes filles », publié au Seuil en 1993. Et on voit à travers ce livre des exemples d'au moins 100 de journaux intimes écrits par des jeunes filles au XIXe siècle. Pourquoi des jeunes filles? Parce que la plupart du temps, c'est très général, une fois que la jeune fille est mariée, elle n'écrit plus son journal. La chambre conjugale n'est pas un espace suffisamment intime, probablement, pour pouvoir écrire un journal intime, et puis elle a autre chose à faire, et puis ça ne fait plus partie des pratiques autorisées, en quelque sorte, de la femme mariée. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de retrouver un journal intime d'une jeune fille, une certaine Caroline Bram, qui l'écrivait au XIXe siècle, avec un de mes étudiants. C'était lui d'ailleurs qui l'avait trouvé dans une bouquinerie, et il l'avait apporté un jour au séminaire. On avait trouvé le texte tout à fait passionnant, on l'avait étudié, et puis on l'a édité. Et ce qui est très intéressant, c'est que au point de départ, on n'avait que le nom, Caroline Bram, et puis de fil en aiguille, en utilisant les mentions qu'il y avait dans le journal, on a pu retrouver sa famille, le lieu où elle habitait, son histoire, et on est arrivé à retrouver la vie de cette jeune fille, pourtant complètement inconnue. Ceci dit, elle appartenait à une famille relativement connue. Malgré tout, son père était polytechnicien, et rien que par l'annuaire de Polytechnique, on a pu retrouver des quantités de choses. Mais ceci, c'est pour vous dire que, avec une trace, l'historien peut remonter le fil et retrouver des vies. Et avec Caroline Bram, cette jeune fille inconnue, on a pu le faire. Vous le voyez, les archives privées sont favorable, évidemment, à retrouver les traces des femmes. Et aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits pour constituer des archives de femmes. Il y a de cela à la bibliothèque Marguerite Durand, qui est la principale bibliothèque de femmes dont je vous parlerai plus longuement. Il y a beaucoup de dossiers d'archives de femmes qui sont déposés. Et puis à Angers, Christine Barr, qui est une historienne, a constitué des archives du féminisme où elle accueille des archives personnelles de femmes féministes ou d'associations. Évidemment, c'est un petit peu différent, mais c'est évidemment c'est très important pour faire l'histoire des femmes. Voilà par conséquent des exemples de ce que l'on peut trouver dans les archives pour faire l'histoire des femmes. Quand on n'a pas d'archives, on peut essayer d'en susciter. Et c'est tout l'objectif de l'histoire orale, ce qu'on a appelé l'histoire orale, qui a eu beaucoup de succès à partir des années 1970, pas seulement en direction des femmes, mais aussi en direction des muets de l'histoire, les ouvriers, les gens du peuple qui n'avaient pas justement laissé de documents. Mais pour les femmes, ça a été quelque chose d'important, et on a branché le magnétophone. Un seul exemple, le livre que Anne Roche et Marie-Claude Taranger ont publié il y a quelques années, en 1995, qui s'appelle « Celles qui n'ont pas écrit, récits de femmes dans la région marseillaise, 1914-1945 ». Dans ce très beau livre, elle publie ce qu'elles ont recueilli par des interviews avec leurs étudiants auprès de près de 500 femmes de la région marseillaise. Alors, elles analysent ces documents, elles en donnent des extraits, et elles ont pris un spectre social très large, de la bourgeoise à l'ouvrière, de l'immigré à la femme native de Marseille depuis longtemps, à la fois pour voir l'histoire au quotidien, les femmes dans la grande histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que les guerres, les événements produisaient sur leur vie et comment elles les vivaient. Et puis il y a toute une dernière partie où elles donnent intégralement les textes sortis de ces enregistrements sous le titre des voix. Et il y a toute une réflexion sur l'histoire orale comme la manière de trouver une mémoire des femmes complètement engloutie.
Histoire des femmes par Michel Perrault, réalisation Pierrette Perronneau.